Я приглашаю нашего следующего докладчика, Гаяне Армаганьян, École Normale Supérieure de Lyon.
Alors, je vais vous parler des modèles métaphoriques de la révolution dans la littérature de l'immigration russe, un thème qui a été abordé déjà par Gervais Stassis dans sa communication et que je vais ici essayer de développer. Володя Радищ, извините, Володя, le jeune héros du récit de Гайто Газданов, de Histoire d'un voyage, Historia одного путешествия, écoute à la Sorbonne la conférence d'un professeur de sociologie sur le thème « Le feu sacré de la révolution », en français dans le texte. Et il réalise que ni le professeur ni le public n'ont aucune idée de ce qu'est une révolution. Les connaissances du professeur lui apparaissent théoriques, ridicules. Seuls peuvent le comprendre ceux qui l'ont vécu, comme lui, ou comme son compatriote qui assiste aussi à la conférence. Только Александр Александрович, который тоже заметил Володю, мог бы его понять. Et si les écrivains de la jeune génération, comme Газданов, Берберова, ou ceux de l'ancienne, comme Ремезов, continuent d'écrire en russe alors que leur maîtrise de la langue française leur aurait permis de toucher un public plus large, c'est qu'ils s'adressent avant tout à ceux qui, comme eux, ont traversé la révolution, qui l'ont vécu. Dans leur roman et récit, dont je vais parler ici, publié dans l'entre-deux-guerres, la révolution et la guerre civile sont encore des motifs dominants. Барыни, les dames de Saint-Pétersbourg, 1927, Зоя Андреевна, de Берберова, Вечер у Клер, une soirée chez Claire, 1929, de Газданов et Historia одного путешествия, l'histoire d'un voyage, et enfin la Russie de la tourmente, de Ремезов, publié en 1927, élabore des modèles métaphoriques de la révolution dont je me propose d'examiner ici l'évolution et les enjeux. D'abord, Газданов et son parcours de la révolution romantique au pessimisme historique. Tous les écrivains de la première vague de l'immigration russe qui avaient quitté leur patrie après 17 ont développé un ensemble de modèles métaphoriques pour décrire la révolution et le nouveau régime soviétique. Ces modèles sont facilement identifiables, on l'a dit déjà aujourd'hui, comme hérités de ceux de la révolution française. Ce sont la plupart du temps des métaphores bibliques ou apocalyptiques. Революция стихийное бедствие, революция конец света, революция разрушитель души и морали человека, революция наказание за грехи. La révolution est une catastrophe naturelle, c'est la fin du monde. La révolution est une punition pour nos péchés. Le mot разрушение et toutes ses variantes, уничтожение, est omniprésent, par exemple, dans l'histoire d'un voyage de Газданов. Je cite, «Он слышал крики солдат и выстрелы, и удаляющуюся канонаду сражений, и видел выжженные поля, разрушенные дома, седого почтенного горожанина, убитого шальным снарядом у своего крыльца. Там было тихо, хорошо и скучно, до той минуты, пока не вспыхнул «le feu sacré», неосторожно произносимый профессором, уничтоживший эту жизнь и осветивший иначе страшные картины». Pour le narrateur de Газданов, la révolution – это смерть и печаль, и последнее человеческое исступление, la mort, la tristesse, et la dernière frénésie humaine, remarquons que le mot russe est исступление, qui peut aussi se traduire par extase. Le caractère expressif, expansif de la révolution contamine littéralement les premiers récits de Газданов sur le modèle romantique. Ces récits et romans s'apparentent d'ailleurs en cela bien davantage à la prose soviétique d'un Пыльняк ou d'un Isaac Babel qu'à la prose de l'immigration. Dans ces récits, l'image de la révolution, ou plutôt du temps révolutionnaire, est ouvertement romantisée et la Russie est perçue comme, je cite, «прекрасная мужественная страна, колыбель веселой революции», un magnifique pays courageux, le berceau de la joyeuse révolution. «Далекая эпоха мечтателей», l'époque lointaine des rêveurs. Et cette musique solennelle, торжественная музыка, est produite dans ses premiers récits de Газданов par les coups de feu, la mer, les villes, выстрелы, море, города. Bien entendu, dans cette représentation très romantisée et bloquienne, comme on le voit, la métaphore est la trope privilégiée. Bien avant Trifonov, Газданов va utiliser dans ses «Рассказы о свободном времени», récits sur le temps de la liberté, la métaphore du brasier, par exemple, «костер», Мы ростки, вырастающие из обогревших головней такой пламенной, такой неповторимой революции, такого великолепного костра. Et il n'est pas étonnant que la métaphore chez Gazdanov, qui a été souvent, on le sait, comparée à Marcel Proust, fait œuvre de l'expérience. Elle sublime cette dernière substantiellement et la préserve pour un temps de l'écoulement dévastateur du temps, dont l'inexorable succession d'instants met à la marge de la personne les événements d'un passé lointain. La réalité est un prétexte et elle s'évanouit une fois remplie sa fonction mnémonique. Qui laisse prise avec la réminiscence. La révolution réelle finalement disparaît lorsque surgit le souvenir de la révolution passée. Et la réalité est mise entre parenthèses, comme à la recherche du temps perdu, la Madeleine présente disparaît lorsque surgit le souvenir de la Madeleine passée. On pourrait citer ici Gérard Genette qui écrit « Ainsi la métaphore n'est pas un ornement, mais l'instrument nécessaire à une restitution par le style de la vision des essences ». Parce qu'elle est l'équivalent stylistique de l'expérience psychologique de la mémoire involontaire. Fin de citation. Ainsi, lorsque Gazdanov cherche à retrouver ce temps enchanté de liberté, il entend comme Bloch la musique de la Révolution. Il l'entend si fort que, dans sa prose, les frontières entre prose et poésie, par moments, s'effacent. Parfois, il lui confère un caractère rythmique. Parfois, le rythme naît spontanément, apporté par une sorte de vague déferlante du thème, comme dans le récit, par exemple, « Товарищ Брак »,« Camarade Брак ». «И мы исчезали в черных туманах смуты. Нас бросало из стороны в сторону сквозь треск и свист. Осыпанные землей искрами, мы брели и гибли, цепляясь глазами за синие потолки неба, за хвостатые звезды, падающие вниз». Со страшных астрономических высот. À partir de son récit «Превращение», le thème de la révolution chez Gazdanov cesse d'être le thème dominant. La guerre, les soldats, les combats, les canons, «Война», «Солдаты», «Сражения» deviennent un tas de ferrailles recouverts par les cendres du temps. «Железный хлам», «Осыпанный пеплом времени». La métaphore ne participe plus au mythe romantique et à sa sacralisation émotionnelle pour se mettre au service d'une réflexion historique et philosophique. Les cendres du temps recouvrent une réalité historique qui n'est plus qu'un tas de ferrailles. Dans le roman « Вечер у Клер », une soirée chez Claire, on voit déjà une métaphore davantage marquée par l'idée existentialiste du mouvement de l'histoire de l'humanité vers l'inconnu, vers la fin des civilisations, la fin des villes, des cultures. Une fin apocalyptique dans laquelle se dessine le tableau du jugement dernier. Les métaphores deviennent alors des symboles, la terre en feu, un son strident, резкий острый звук, la neige, la tempête de neige, la nuit, nuit des civilisations bien sûr, le froid, une canicule de chaux vive. Je cite, «Я вспоминал, как ночью над нами медленно проносился печальный протяжный свист пуль». И что эта пуля летит очень быстро, а звук ее скользит так миронно и неторопливо. Делало особенно странным все это невольное оживление воздуха, это беспокойное и неуверенное движение звуков в небе. On observe une nette divergence entre la représentation littéraire et la pensée historique de Gazdanov. Alors que pour son héros Володя, le mythe romantique conserve un caractère sacré, que la métaphore contribue à inscrire dans une éternité mythique, le lourd vol d'un immense pays à travers cette tourmente de neige russe, glaciale et inoubliable. Извините, тяжкий полет по-русски громадной страны сквозь ледяной холод и тьму и огонь. Gazdanov, l'écrivain, quant à lui, minimisera l'importance de la révolution au cours d'une réunion du studio franco-russe dans un débat qui est devenu célèbre du 18 décembre 1929 où, dans une réponse à Boris Zaitsev, Gazdanov affirme, je cite, « La révolution en Russie paraît énorme à M. Zaitsev. En réalité, ce n'est pas si grand-chose que cela. Il ne faut quand même pas dire que c'est l'événement le plus important qui ait existé. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a eu dans l'histoire des périodes beaucoup plus intéressantes et qui dépasseraient largement celle que nous venons de traverser. La révolution russe est un fait d'une importance locale. » Pourquoi j'ai cherché à répondre à cette question et je pense que c'est parce que le discours historique et le discours philosophique n'est pas structuré de la même manière que la langue naturelle ou que la langue littéraire. Le discours philosophique a enterré, en tout cas a cherché à enterrer la métaphore, l'a congédié, comme dans le psychisme fonctionne un peu le concept de refoulement. Mais cette dynamique, on le voit, produit des termes antinomiques, catastrophe unique dans l'histoire, événement local sans importance, sensible, intelligible, etc. Dans Mythologie blanche, Derrida écrit « L'usure ne surviendrait pas à une énergie tropique destinée à rester autrement intacte. Elle constituerait au contraire l'histoire même et la structure de la métaphore philosophique. L'image sensible, qui jouit d'un primat original, est dégradée, en fait, dit Derrida, par l'histoire du concept. » Je vais passer maintenant au modèle métaphorique chez Nina Berberova, qui évolue de la métaphore naturelle au modèle dostoïevskien. La vision idéalisée de la Révolution est confirmée par plusieurs contemporains. Elle est confirmée d'ailleurs aussi dans l'autobiographie célèbre de Berberova, Kursiv moi, c'est moi qui souligne, où elle écrit « Nous étions heureux d'assister à la destruction de ce qui avait suscité notre haine et notre mépris. Nous avions eu honte de la bassesse et de la bêtise de l'ancien régime qui s'était décomposé au vu et au su du monde entier. Le monde entra dans l'histoire en balayant tout sur son passage, eux les premiers. » Néanmoins, ces premiers récits réactivent les métaphores apocalyptiques de la Révolution comme catastrophe naturelle et nouveau temps des troubles. Zoya Andreevna, publiée dans Savremennye Zapiski, qui évoque ainsi l'exode et l'immigration massive pendant la guerre civile, après les défaites du général Denikin en 1920, puis du général Wrangel à l'automne, lorsque, écrit-elle, je cite, « un véritable flot humain se déversa à Novorossiisk ». Zoya Andreevna, l'héroïne de ce récit éponyme, fuit les bolcheviks, échoua à Rostov dans une pension minable, sévit dans la ville une épidémie de typhus et lorsque Zoé Andreevna est prise de fièvre, les deux sœurs Koudiarov qui tiennent la pension cherchent à s'en débarrasser. On a une description véritablement d'une catastrophe naturelle. La rue large et sonore retentissait du vacarme des calèches délabrées, du flot continu des gens. Ils s'y étaient retrouvés en masse, affolés, plongés dans la détresse et la fuite, témoins des épidémies, de la ruine et de la guerre. La métaphore, bien sûr, centrale est celle de la catastrophe naturelle, le rat de marée révolutionnaire qui convoque, bien sûr, à la fois les images bibliques du déluge, mais aussi celles des folklores russes traditionnels, bien sûr, la vieille Russie qui est engloutie, comme avait été engloutie la légendaire ville de Kitirj. Toutes ces métaphores contribuent à inscrire la chronique de l'exode des Russes blancs, dans, comme l'a dit M. Niva ce matin, dans l'exode de la troisième tribu d'Israël. Et là, je cite M. Niva qui avait déjà employé cette expression dans Russie-Europe, la fin du schisme. Après l'eau, c'est naturellement le feu et l'incendie qui sont convoqués. Dans Les Dames de Saint-Pétersbourg, Varvara Ivanovna et sa fille Marguerite cherche à échapper aux troubles révolutionnaires dans une petite pension provinciale du docteur Burdin. Cet établissement et ses pensionnaires représentent un microcosme de cette petite bourgeoisie qui ne se rend absolument pas compte de la portée historique des événements révolutionnaires, mais qui aime à les évoquer d'une manière théâtrale avec toute une série de métaphores usées et mortes, qui sont des catacrèses ici, des métaphores du type « l'incendie peut se déclarer à tout moment » ou bien encore « tout ceci n'est encore qu'une étincelle ». Je cite « Il est évident, messieurs, que tout ceci n'est encore qu'une étincelle. » Ici, Varvara Ivanovna a employé des mots qui n'étaient pas les siens, sans pouvoir se rappeler de qui elle les tenait, et l'incendie peut se déclarer à tout moment. Les personnages de ce court récit de Berberova parlent des événements révolutionnaires comme dans une opérette. Les dames de Saint-Pétersbourg et leurs interlocuteurs semblent se jouer à eux-mêmes une sorte de vaudeville. Finalement, la mort soudaine de Varvara Ivanovna plonge tout le monde dans l'embarras. Il faut l'enterrer rapidement et on décide de l'ensevelir dans le jardin de la pension. Pendant ce temps, sa jeune fille Marguerite pense avec frivolité. Je cite « Personne, j'ai apporté ma robe bleue pour rien ». On voit ici qu'à la frivolité des acteurs de l'histoire, l'histoire fabula, l'histoire memoria répond par la mort et les massacres. La mort de la mère de Marguerite coïncide avec la mort de l'ancienne Russie. Et lorsque, 7 ans plus tard, elle revient pour se recueillir sur sa tombe, elle trouve dans le jardin de ce qui avait été la maison des Burdin un paysage d'apocalypse, de ruines, et la transposition d'une autre métaphore traditionnelle, celle de la Russie cimetière. Je cite « Une surface de terre nue marquait l'emplacement de la maison, le sol était brûlé, calciné. Il y avait eu un incendie, les parterres de fleurs et les sentiers s'étaient confondus en une broussaille très fournie, des racines sortaient de terre. Quel silence ! Le jardin n'était plus que souche et ortie informe et clairsemée. Six croix identiques, couvertes de mousse, et la terre envahie d'herbes folles. » Il s'agit bien entendu ici de la métaphore bien connue de la Russie cimetière qui remonte au chroniqueur du temps des troubles, Abraham Palitsyn. Cette métaphore a été reprise par tous les historiens et écrivains russes, de Kostomarov à Sergei Solovyov, justement, et par de nombreux écrivains immigrés, comme Alexei Tolstoï aussi, qui, dans Le chemin des tourments, va citer Palitsyn, son héros de retour du front, ouvre justement l'histoire de la Russie et lit, je cite, « Il y a 300 ans, le vent errait par les bois et par les steppes à travers un immense cimetière qui avait nom la terre russe. » La métaphore deviendra plus philosophique chez Berbirov dans ses œuvres de maturité. Je m'arrêterai juste quelques instants sur le Cap des tempêtes, Mys Bury, qui est écrit en 1950, où Berbirov va revisiter la pensée de l'homme dostoïevskien, qui refuse d'être un échiquier, un pion sur l'échiquier de l'histoire, et qui rejette le bonheur imposé par ses bienfaiteurs ou autres grands inquisiteurs au profit de la liberté. Revenant sur le rejet du socialisme athée formulé par Dostoïevski, Berberova montre que la proclamation romantique et déclamatoire de l'égalité ne fait en réalité que favoriser l'écart entre les maîtres et les esclaves, qui sont, je cite, « transformés en chair à canon de concentration pour les catastrophes futures ». Le bonheur rationalisé et égalitaire proposé par la Révolution et les utopies socialistes est refusé par l'héroïne de Berberova, puisque la Révolution, en supprimant l'idée du sacré, c'est-à-dire du bien, remplace la structure hiérarchique par le bonheur forcé et égalitaire, résultat de simples opérations arithmétiques, comme l'addition ou la division, apparaît une nouvelle ligne de partage du monde. Je cite « Aujourd'hui, les gens préféraient l'horizontal. Ils cherchaient le bonheur plutôt que le bien. L'horizontal, c'est un monde privé d'idéaux et de valeurs absolues. Un monde où l'homme n'a aucun choix à faire. Ainsi, Dash, l'héroïne du Cap des Tempêtes, décide de vivre à contre-courant. » Je terminerai par quelques mots rapides sur Remizov et la métaphore de la Russie dans la tourmente, «Взвихрённая Русь». Remizov publie «Взвихрённая Русь» en 1927. On sait que c'est une chronique, une летопись aussi, qui se veut une chronique d'un nouveau temps des troubles. La métaphore eschatologique est encore une fois au centre du désir de Remizov de sauvegarder la mémoire en élevant le quotidien et l'intime au niveau de l'histoire dans laquelle ce petit homme est ballotté par les événements dont il va se faire le chroniqueur de son mémorial des terribles années de foudre. Là, je cite. À l'instar de l'homme du souterrain Dostoïevskien, son narrateur s'interroge: la révolution ou une bonne tasse de thé? Et met en parallèle aussi les années révolutionnaires avec un intertexte très riche de la littérature de l'ancienne Russie du XIIIe siècle, insérant de larges extraits de son texte écrit, de son propre texte écrit en 1917, le dit de la chute de la terre russe, «Слово о погибели русской земли», insérant des variations sur les apophthegmes d'Héraclite, où le feu, justement, apparaît à la fois comme cataclysme et comme catharsis. Есть суд всего, что дышит, живет и растет. Суд огнем. Огонь последний судья. Все судит и все разрешает. А молния кормчий, последнее испытание через огонь. Dans la représentation de Remusov, la révolution est donc une folle tourmente, безумный вихрь, la danse des éléments, стихийная плясовица, détruisant tout sur son passage et apportant le chaos. Mais si la métaphore de la tourmente, вихрь, est centrale, sont convoquées aussi celles du désert et du silence. Je cite « Ободранный немой, стою я в пустыне, где когда-то была Россия ». Muet et engueuli, me voilà au désert, là où jadis se trouvait la Russie. La présence de la, et même la prégnance, je dirais, de la métaphore du silence et du son à valeur performative, bien sûr, est encore un topos littéraire aux réminiscences bibliques, où la parole a valeur performative pour faire jaillir le monde du silence, hein, dans le livre de la Genèse. Centrale aussi dans ce livre, la métaphore, et c'est la dernière dont je donnerai l'exemple, la métaphore de la terre-mère humide, de la femme souffrante et ensanglantée. Ô ma patrie, traîne misère, ma mère l'humiliée, je baisse tes plaies, ton front brûlant, tes lèvres desséchées, ton cœur brisé par les offenses et l'amertume, tes yeux battus. Ô ma patrie, tu gis terrassée sur l'herbe verte, je te vois dans la suie des incendies sous la mitraille et tes tresses défaites traînent à terre. Il n'y a pas chez Remusov de, et je conclue, il n'y a pas chez Remusov de dichotomie entre la métaphore littéraire, philosophique ou historique, car sa métaphore est la métaphore syncrétique et glossolalique du verbe, du slovo. Lorsque, comme les poètes symbolistes, il développe une série de métaphores sonores, par exemple, hein, звукоподражательные метафоры, утишиться тише тихой скотины, hein, qu'on pourrait traduire par s'apaiser comme paissent et repaissent les bestiaux. Ces métaphores ont ce caractère syncrétique car, comme l'archiprêtre Avakoum aussi, qui est son modèle et qui appelle le tsar Alexei Mikhailovich à parler sa langue naturelle, Remusov écrit dans sa langue naturelle, свой природный язык. Je citerai pour conclure encore une fois Derrida qui dit « La métaphore engage la totalité de l'usage de la langue naturelle comme la langue philosophique ». C'est justement le postulat qui résume l'enjeu des relations entre la métaphore et le système de la langue dans la mythologie blanche de Derrida. Et enfin, si vous me permettez encore quelques mots pour conclure, les écrivains de l'immigration russe ne se contentent pas des métaphores naturelles traditionnelles héritées de la Révolution française. On voit qu'ils les enrichissent de métaphores de leur langue et leur patrimoine naturel russe, des prophéties eschatologiques apocryphes, des réminiscences païennes, de la terre-mère humide, de la métaphore sonore et glossolalique. Ils ont su réconcilier la chronique historique avec les métaphores lyriques, avec les métaphores eschatologiques et philosophiques. La révolution russe, on l'a dit déjà ce matin, n'est pas la révolution française et ne peut être exprimée uniquement par les métaphores naturelles, comme le feu sacré. Et ces métaphores de la révolution, des écrivains de l'immigration, bien que métaphores vives, pour reprendre le titre de la célèbre étude de Paul Ricoeur, contribue à la fois à figurer la Révolution et à configurer des liens avec la pensée philosophique et historique.